l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 66. Figé ou pas figé, Christian Hahn en quête de l'identité alsacienne. Ah, chers amis, bonjour. Die Gedanken sind frei. Les pensées sont libres. C'est cela, être alsacien ? Affirmer être alsacien, c'est de suite penser au passé. Si je dis maintenant « je suis alsacien », dans une émission de radio où l'on vénère le temps perdu et le jeu du hasard, c'est que l'on a forcément un regard mélancolique. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas le temps passé. La culture alsacienne, c'est le futur, pas seulement le passé. L'Alsace, c'est l'avenir de l'homme. L'Alsace, c'est l'avenir de la femme, n'est-ce pas, Christian Hahn ? Bonjour.
Bonjour, absolument.
Donc, ce ne sera pas une émission mélancolique. Tout d'abord, Christian, je devrais te tutoyer puisque on était collègues à FR3 Alsace. Mais maintenant, Monsieur Hahn, vous êtes quelqu'un d'encore plus important, encore plus important que d'être journaliste. Vous êtes président du Conseil culturel d'Alsace. Alors, le Conseil, Monsieur le Président, c'est une institution pour figer le temps ?
Absolument pas. C'est une association qui a été fondée en 2016-2017 et dont l'objectif était de réfléchir à des questions ayant trait à la culture, à la problématique linguistique. Donc nous avons une commission de politique linguistique, aux transfrontaliers et au patrimoine et tourisme.
Mais alors pourquoi dès que l'on évoque la culture alsacienne, et bon, je ne parle pas des Bredele, des cigognes et de la deuxième flèche de la cathédrale, on se tourne vers une époque lointaine. Je veux dire les années, par exemple pour nous, notre génération, les années 1970, où l'on affirmait son identité culturelle un petit peu par le désarroi, mais aussi par l'espoir, parce que à l'époque, on disait « ce n'est pas trop tard ». On vivait toujours dans l'enthousiasme de mai 68, par procuration, l'espoir de pouvoir dire, avec plein de bons arguments, non, ce n'est pas trop tard. Mais là, en 2024, ce n'est plus le cas, ça a changé.
Alors, ce n'est pas trop tard, mais c'est plus tard.
Oui, mais enfin, on n'est pas normand, on est alsacien.
Non, donc, non, la situation, évidemment, a terriblement changé. C'était la raison de... d'une entreprise que j'ai mise en route avec Michel Deutsch. Michel Deutsch, qui est un dramaturge, écrivain, qui a participé à l'aventure Jean-Pierre Vincent à Strasbourg entre 1974 et 1983, qui a aussi été l'auteur avec Henri de Turenne
de la série Mathilde.
Les Alsaciens ou Les Deux Mathildes. Et Michel, il se trouve qu'il venait assez régulièrement en Alsace. Il a gardé des attaches profonde avec Strasbourg.
Son grand-père, Michel Deutsch, qui était un grand dramaturge à Soultz-sous-Forêt.
Un grand dramaturge, je n'irai pas jusque-là. Alors, il écrivait des pièces de théâtre alsacien.
Oui, du comique.
Du comique. Mais c'était un grand philanthrope, puisqu'il était médecin et que plusieurs
Il soignait gratuitement les pauvres.
Plusieurs villages autour de Soultz-sous-Forêt.
Chenambourg, notamment.
Chenambourg, Offen, etc. Ont des noms, des rues qui portent son nom. Et donc, Michel Deutsch, celui qui nous intéresse, le petit-fils, porte donc le même prénom. Et Michel est venu à Strasbourg il y a une douzaine d'années, pour faire un film documentaire sur l'aventure du TNS, justement cette aventure à laquelle il avait participé. Et on s'est croisés dans les couloirs, vous savez, les hasards sont toujours... Je le connaissais de l'époque des Alsaciens ou les deux Mathilde, j'avais fait une émission avec lui, mais on s'était perdu de vue. Et puis, on se croise dans les couloirs et il me dit « Ah, mais on pourrait aller manger ensemble si tu as le temps. Je suis là pour 6 semaines. » Je dis « Oui, pas de problème. On va manger ensemble. » Et en 5 minutes, la discussion démarre sur... Ses parents habitaient au Neudorf.
Au Neudorf, oui.
Et donc, il avait gardé la maison des parents. Et donc, il prenait le tram de la ligne B.
Comme il faisait 33 degrés à Londres, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin étalait son eau couleur d'encre. Et c'est qui ? C'est Bouvard et Pécuchet. Hein, en 5 minutes, vous rencontrez Michel Deutsch, parce que ça, c'était ma deuxième question. Mais
non, mais rapidement, oui. Pour vous dire, pour vous expliquer ce qui a été le déclic, c'est que très rapidement, au bout de 5 minutes, on parle de... Il me dit, j'ai pris le tram de la ligne B, personne ne parle alsacien, très peu de gens parlent français, l'Alsace, c'est ça, aujourd'hui. Et là, je lui dis non, Michel, l'Alsace, c'est aussi ça. Mais ça n'est pas que ça. Change de ligne de tram.
Change de passé.
Oui. Et donc, voilà, la discussion est partie là-dessus. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que 100 ans avant nous, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y avait une équipe d'artistes qui s'appelait le Cercle Saint-Léonard, avec notamment Stoskopf, avec Spindler, mais beaucoup d'autres, qui se sont rendus compte à ce moment-là déjà qu'une partie de l'Alsace était en train de disparaître, notamment le costume qui était de moins en moins porté. Alors, vous avez grandi en partie à Wissembourg. Vous savez que dans cette région-là-bas, moi-même, enfant, j'ai encore vu des dames de...
Oui, à Schleital, à Zebar.
Qui portaient le costume dit traditionnel. Au moins le dimanche, et certaines aussi, les plus âgées.
Ma maman a donné les costumes de ma grand-mère de Wissembourg au musée alsacien.
À Strasbourg.
À Strasbourg, oui. Parce que personne à Wissembourg ou à Agneau ne voulait les prendre.
Il n'y avait pas encore de musée alsacien à l'époque à Agneau, peut-être, non ?
Non, il y avait l'abbé Bourg, que je connaissais ça. Bien, mais non, ça ne les intéressait pas. Lui, il était dans les silex. Ouais.
Et donc, et de fil en aiguille, on s'est dit, mais il faudrait aujourd'hui, parce qu'on se rend bien compte que quelque chose est en train de partir, et c'est toujours difficile à définir, et puis quelque chose va probablement arriver, et pourtant encore, beaucoup de gens se revendiquent d'appartenir à cette culture alsacienne, mais elle est très difficile à définir.
Oui, mais c'est ça le sujet de notre émission, c'est toujours le passé, c'est les racines dans le passé. Hein? Donc ça, c'est ma question, elle est quand même pertinente. En 2024, où est-ce qu'on en est alors ?
Alors en 2024, je ne peux pas vous dire exactement où on en est. On en est au fait que, alors les chiffres sont ce qu'ils sont, mais il y a encore environ 46% de locuteurs d'Alsaciens. Je parle maintenant de la problématique linguistique. Il y a environ 46% de gens qui déclarent, parce que c'est du déclaratif, qu'ils parlent régulièrement alsacien. Quand on descend dans la moyenne d'âge, c'est-à-dire les moins de 25 ans, on tombe à 6%. Et quand on descend aux moins de 6 ans, qui sont eux véritablement l'avenir, on est à 0,1-0,2%.
Donc... Et vous savez pourquoi la station de tram, hein, puisqu'on parlait du tram avant, mais le quartier, la Méno, pourquoi ça s'appelle la Méno ?
Non, dites-moi.
Étymologiquement, Ao, c'est la prairie.
Ao, c'est une prairie humide.
Mais c'est l'histoire. C'est parce qu'en fait, il y avait une ferme et il y avait un paysan qui prenait son taureau pour les vaches et il prenait ses vaches, il l'amène au taureau.
Ah, voilà, ça vient vraiment de là ?
Non,
ça
c'est une blague. C'est une blague de Loulipo.
Non. C'est bien vu.
Oui, c'est bien vu, c'est
sauf
rigolo.
Sauf que ça ne fonctionne pas en France. Oui. La langue de l'époque n'était pas le français.
Non. Mais alors justement, avec Michel Deutsch, vous faites une
Donc on est parti sur l'idée de faire une enquête en deux mots. Voilà. Enquête d'Alsace.
Recueillir
des témoignages de gens les plus variés possibles pour qu'ils soient véritablement représentatifs de la société alsacienne. Alors, ça va de gens...
Ce sont des vidéos.
Hein, oui, ça va de gens très simples jusqu'à des gens très, très... qui ont un très fort niveau d'études, par exemple. Ça va de gens qui sont des intellectuels, des gens qui sont... des artistes, mais aussi des gens qui sont des chefs d'entreprise, des gens qui sont des employés, des ouvriers. Enfin, on a vraiment un panel le plus large possible. On en est à 160, 170.
Et c'est des gens qui expriment donc leur alsacianitude.
Oui.
Et vous les mettez au frigo.
Voilà.
Alors, ça veut dire que c'est destiné à être vu dans 150 ans ?
Alors, c'est destiné à être aussi vu dans 150 ans. C'est-à-dire, l'idée, c'est que pour l'instant, ces témoignages figurent sur le site internet du Conseil culturel d'Alsace, sur YouTube, plus spécifiquement, puisque c'est l'approche est plus simple. Moi, j'en diffuse un tout petit bout dans mon émission dominicale à la télé, mais l'entretien est ciblé sur une heure environ. À partir de cette heure de matière, on en garde une demi-heure. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Alors, plus ou moins 5 minutes. Et puis, dans cette demi-heure, on en extrait aussi 10 minutes pour donner envie aux gens de regarder peut-être l'entretien complet parce que ça leur parle ou ça ne leur parle pas.
Je croyais que les clips, maintenant, c'était 40 secondes
oui,
maxi.
On est encore de la vieille école, mon cher Ambroise. On aime encore pouvoir dire des choses en s'installant dans le temps.
Dans justement. Le temps. Alors justement, on a mentionné 150 ans, mais dans 150 ans, ce sera en 2170. Et il y a 150 ans, c'était en 1870, lorsque l'Alsace est devenue allemande. Est-ce que cette date, 1870, c'est la date la plus importante dans l'histoire de l'Alsace?
Je ne sais pas si c'est la plus importante, parce que dire cela, ça voudrait dire...
Merci les Allemands de nous avoir occupés.
Oui, hein, c'est un peu ça, voilà. Je ne crois pas.
Moi, surtout je pas... actuellement avec l'Ukraine et tout, que les Russes feront le Neustadt voilà. À Kiev. Mais...
Surtout, ce qu'on oublie, c'est qu'avant... de nous occuper, en réalité, ils nous ont annexés à l'époque.
Hein. Oui,
mais avant de nous annexer, ils ont démoli quand même une grande partie de Strasbourg. On oublie ça. Les Strasbourgeois ne se sont pas levés en 71,
les archives qui ont
à
brûlé.
La frontière, pour les bras grands ouverts, pour accueillir ces Allemands qui auraient été attendus depuis si longtemps. Pas du tout, puisque la ville a été en partie démolie de façon terrible, avec l'incendie de la bibliothèque qui a été un drame absolu, dont les Allemands de l'époque ont quand même morflé sacrément par la suite, parce que, puisque des chefs-d'œuvre de livres ont disparu dans cet incendie, le Kaiser a ordonné à toutes les bibliothèques universitaires des grandes villes allemandes de donner des livres à la bibliothèque de Strasbourg.
C'est pas mal comme réaction.
Oui, ils n'avaient pas le choix. Mais c'est vrai.
Oui.
Alors, il y a quelques livres, il y a d'autres.
C'est-à-dire qu'on peut recomposer le passé.
Une partie. Mais ils s'en sont, ils en ont bénéficié, les Allemands, 100 ans plus tard, ou pas tout à fait 100 ans plus tard, puisque...
Quand les Américains et les Anglais ont bombardé les grandes villes allemandes...
Quand beaucoup de villes allemandes ont été bombardées, beaucoup de bibliothèques ont disparu. Et très longtemps, et aujourd'hui encore, des chercheurs allemands viennent à la bibliothèque de Strasbourg, qui ne va pas les rendre.
Oui.
Faut pas exagérer.
Oui. Oui.
Mais
c'est pas l'Afrique, là, où on rend les statues.
Ils viennent étudier dans les livres qu'ils ne trouvent plus dans leur propre bibliothèque.
Oui, mais c'est un patrimoine maintenant qui est européen, on peut dire ça.
Bien entendu. L'avenir de l'Alsace, c'est l'Europe. C'est de toute façon l'Europe. La question qui est centrale dans tous les entretiens qu'on a, c'est que tout le monde, la plupart des gens, se sentent alsaciens.
Mm-hmm.
Ceux qui parlent alsacien ne se posent pas la question en quoi. Puisqu'ils parlent alsacien, ils se sentent alsaciens. Mais il y a beaucoup de gens maintenant qui ne parlent plus l'alsacien et qui pourtant se sentent alsaciens, mais qui ne savent pas comment l'exprimer. Alors pour les gens de plus de 40-50 ans, évidemment, on va renvoyer à la culture, à l'histoire, à la géographie, à toutes sortes de choses auxquelles on peut se raccrocher. Mais pour les jeunes, j'ai rencontré beaucoup de jeunes.
Mais alors, les jeunes qui ont des racines alsaciennes, c'est-à-dire des parents, des grands-parents qui sont nés en Alsace, qui le dimanche vont dans un village manger le Beckehof ou... plutôt une quiche Lorraine, qui est le plat le plus mangé en Alsace, paraît-il, le dimanche, ou une pizza. Oui, eux, bon, c'est leur racine familiale.
Oui.
Mais il y a aussi des gens qui sont arrivés en Alsace parce que les études, parce qu'ils étaient amoureux d'une Alsacienne ou d'un Alsacien, et qui sont là,
Mais l'Alsace est une terre de passage. Depuis 1500 ans, oui, il n'y a eu que des gens
qui sont venus d'ailleurs. On a eu Evelyne Ayer qui nous a expliqué qu'il y a 40 000 ans, c'était des Africains qui étaient venus en Alsace. Et qu'on avait à l'époque, nous, à Obersouffel-Niederweyersheim, la peau noire et les yeux bleus.
Bien entendu.
Donc les Alsaciens sont des noirs, des nègres.
Tous les Européens, enfin, oui. la population humaine vient d'Afrique.
D'accord. On le sait. Donc il y a des Alsaciens qui ont un passé très très récent, oui. puisqu'ils sont nés à Bordeaux ou à Lille. Ils arrivent et ils se sentent vraiment Alsaciens.
Il y en a qui se sentent Alsaciens. Je pense que il y a un dicton, je ne sais plus qui l'a dit. Ce n'est pas un dicton, c'est une phrase qui affirme que on est de là où on a des tombes.
Oui. Oui.
Donc, il y a des gens qui viennent s'installer en Alsace et qui veulent
être enterrés en Alsace.
Enterrés en Alsace. Donc, ils veulent, on va dire, c'est l'ultime.
C'est pour ça que j'aime
mariage
pas les,
avec la région.
J'aime pas les fours crématoires ou se faire brûler à l'enterrement, quoi. Non. Oui, il faut planter des poteaux dans la terre avec 6 pieds en dessous. comme on dit.
Ça pose des problèmes d'organisation maintenant.
Et de place.
Que tout ça allait quand la population mondiale était inférieure à
mes grands-parents qui ont changé 4 fois de nationalité, donc à Wissembourg ou à Lauterbourg, j'ai dû me battre parce qu'il n'y a plus de concession perpétuelle. Et donc, j'ai une concession maintenant jusqu'en 2059. J'ai déjà payé d'avance, mais il faudra la renouveler. Et la 7e... des petits-enfants hein, de mes frères et sœurs, il se trouve que c'est ma fille, et elle sait, obligatoire, qu'en 2058, c'est elle qui ira à la mairie de Lauterbourg et de Wissembourg pour payer et renouveler les tombes et remettre un peu de peinture dorée sur les noms qui sont gravés, parce que, effectivement...
S'il y a encore de la place dans la tombe.
S'il y a encore... Alors, voilà,
vous savez, moi, je suis issu d'une famille chiliquoise par ma mère, et je n'ai aucune ascendance du côté de mon père, puisque c'est un enfant abandonné à sa naissance et né de père inconnu. Mais toute ma famille, on va dire, l'histoire de ma famille, repose sur l'histoire de ma famille maternelle, qui était chiliquoise, mon père était strasbourgeois. Et la tombe de mes grands-parents est à Schiltigheim, sur le vieux cimetière, où il n'y a plus aucune tombe neuve. Et au décès de ma mère, il y a 8 ans, je suis allé voir ma tante pour récupérer il y a une espèce de carnet pour le propriétaire de la tombe. C'est aussi une tombe encore ad vita aeternam, normalement, que mon arrière-grand-père avait payé pour y enterrer 2 enfants morts-nés. Et donc, je sais que tout en bas dans cette tombe, il y a deux bébés. Ensuite, il y a mes arrière-grands-parents, il y a mes grands-parents, il y a mon oncle, il y a ma mère. Et ensuite, mais il n'y a plus de place maintenant. Donc,
mais maintenant, ils poussent un peu les os et ils peuvent rajouter. Hein, si on discute avec les pompes funèbres, ils peuvent s'arranger. Si...
D'accord.
Oui.
Mais et ça, c'est comme, c'est comme une langue. Hein.
Oui, mais il y a
quand
des sociologues qui ont étudié...
On a de la place pour inventer des mots nouveaux.
Cet héritage non conscient de ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est une question classique hein, en Alsace, de demander ton grand-père, qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre ? Grand-père, grand-mère raconte. Ça, c'était une émission à FR3 il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Oui, une trentaine d'années. Mais aussi, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de sa famille qui est allemand ou simplement un allemand, on lui demande qu'est-ce qu'il a fait ton grand-père pendant la guerre ? Et bon, une fois sur deux, ils étaient nazis, mais ils ne le disent pas.
Non, là, dans ce cas-là, dans le cas de ma famille, pour que les choses soient quand même claires et dites, je l'ai dit d'ailleurs dans une émission... l'Alsace dans la tourmente, c'est que ma grand-mère a été non pas une résistante appartenant à un réseau, mais elle a eu une résistance individuelle. C'est-à-dire qu'elle avait un garçon, une fille, ma mère et mon oncle, qui était en âge d'aller dans les associations hitlériennes, les jeunesses hitlériennes. Hein, il y avait pour les filles et pour les garçons. Or, ni ma mère, ni mon oncle ne voulait y aller. Et donc, ma grand-mère leur a dit, bah, vous ne voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Sauf que l'organisation nazie était faite de telle sorte que...
C'était obligatoire.
C'était obligatoire. Et donc,
c'est comme aller chez les scouts aussi. Très vite, hein. C'est ce que dit Tommy Ungerer quand il raconte son histoire.
Oui, sauf que l'objectif des nazis, c'était de former des futurs soldats pour aller au front. Hein.
C'est pour ça qu'ils avaient un terrain d'aviation pour apprendre à faire du planeur et ensuite du Stuka.
Et donc d'abord, le Blockleiter, qui était le responsable du quartier, est venu chez ma grand-mère en lui disant... Ah, il faut que le petit... Pour la fille, ils étaient moins exigeants, parce que c'était moins grave. Mais le garçon, c'était...
Les filles, souvent, étaient fières de défiler. Ils avaient des beaux cheveux blonds, avec les nattes, et...
Non, mais les gamins étaient tous fiers de défiler. Ils étaient fiers. Moi, j'étais éclaireur, fier de défiler comme éclaireur.
Sauf certaines filles, j'ai recueilli une fois un témoignage à Agneau, sa maman lui avait coupé sa belle nappe blonde, pour qu'elle ne soit pas devant quand on défile et tout. Donc, il y avait quand même des gens qui avaient une conscience. Et voilà,
mais en tout cas, donc,
Christian Hahn, je répète le nom, puisqu'on est à la radio, il faut que on se
ma souvienne. Grand-mère ne voulait donc a tenu tête au Blockleiter, au Zelleleiter, qui est donc le du plus grand, alors même qu'elle planquait son propre frère, qui avait 16 ans de moins qu'elle, elle était l'aînée de la fratrie, c'était le Benjamin, elle planquait son frère dans le grenier pour parce qu'il avait refusé de partir, lui.
Oui, voilà.
Donc, prise de risque énorme. Donc, c'était pas...
Voilà, dès qu'on parle du passé,
l'humanité. Hein,
le sujet de notre émission, on tombe sur des destins individuels.
Oui.
On raconte des histoires.
Bien sûr.
C'est Modiano de façon universelle et en Alsace de façon très particulière. Bon, je le disais avant, mes grands-parents ont changé 4 fois de nationalité. Et alors, je prends un exemple, ma fille... Elle est née en Chine, une petite fille adoptée, et elle était à l'école européenne à Bruxelles, et on lui demandait, mais toi, tu viens d'où, hein, les gamines entre elles? Elle disait, ah ben, je suis française, parce que mon papa travaille au Parlement, mais je suis ici à l'école européenne, où il y avait plein de gens. Et les gens lui disaient, oui, non, mais vraiment, tu es d'où? Et donc, elle avait appris la réponse, hein, au lieu de dire...
Elle avait compris le sens de ce vraiment.
Bien sûr. Qui était un peu... Et elle disait, non, comme les petits arabes, enfin, qui ne sont pas arabes, qui étaient des trucs, elle disait, vraiment, tu es quoi et tout. Elle disait, vraiment, je suis alsacienne. Et donc, les gens étaient un peu étonnés, et elle rajoutait, du Bas-Rhin, hein, pas du Haut-Rhin. Voilà, donc, avec ses petits yeux bridés, et voilà, et donc, c'était très bien. Et elle avait appris 3 ou 4 gros mots en alsacien pour pouvoir justifier de sa réponse. Voilà. Mais tout ça, cela veut dire que, en 2024, on n'a pas envie que le temps s'arrête, qu'on peut se projeter quand même dans...
La question du temps, à titre personnel, je fais partie de cette génération qui... j'ai 67 ans maintenant. J'ai vu dans ma propre vie comment une langue était parlée par 80% de la population, peut-être même 90% quand je suis né, et comment elle n'est plus parlée que par peu de gens, comment elle était une langue qui permettait de tout dire et qui permet toujours de tout dire pour ceux qui la pratiquent vraiment et qui la connaissent, à devenir une langue qui va finir par être une langue de folklore.
Ben justement, alors c'est ça. Une langue, on dit, de façon générale, ceux qui apprennent l'anglais, l'allemand, l'espagnol, ce n'est pas que de la communication, alors qu'on le fait pour communiquer, c'est aussi une culture. Bon, on n'est pas obligé d'aimer la paella quand on apprend l'espagnol, mais bon, c'est une culture. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour réinventer quelque chose de neuf, puisque en 2024, l'identité alsacienne, c'est quand même plutôt quelque chose d'économique, avec un alibi, le folklore, on vient de le citer, et quand on en parle, quand on en parle et qu'on se retourne vers le passé, c'est la culture. Est-ce qu'il peut encore y avoir une culture alsacienne spécifique en 2024
il y a encore...
avec, je sais pas, un directeur du TNS qui vient de Bordeaux et les gens de la DRAC qui ne connaissent absolument rien à l'Alsace, et un directeur d'FR3, de France 3, qui ne sait pas s'il est à Bordeaux ou à Lille.
C'est très difficile dans cette situation que vous venez d'évoquer, en effet. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a, pour commencer, de la part de ceux qui en ont la capacité encore, c'est de continuer à partager la langue, d'essayer de faire en sorte qu'elle ait un espace visible dans l'espace public. C'est surtout ça le problème. Une langue, elle doit servir à quelque chose, si vous voulez. On est ici à Radio Judaïka. L'hébreu a traversé des siècles et des pays parce que la langue servait à quelque chose. C'était la langue de la religion. Et elle a traversé tout ça pour arriver à la fin du 19e, début du 20e siècle et pour devenir, j'allais dire enfin, pour le peuple d'Israël, une langue nationale.
Fédératrice.
Fédératrice et qui a dû s'inventer la modernité parce que la modernité n'était pas inclue dans la langue de la religion.
Et dans l'évolution de la langue.
Du texte. Et donc, elle s'est réinventée une modernité tout en gardant, évidemment, la langue du livre telle qu'elle était. Bon, ça, pourquoi est-ce que ça a été possible ? Parce qu'elle avait une mission, cette langue. Elle servait à quelque chose. Le problème, c'est que l'alsacien, s'il ne sert plus qu'à du folklore, il va disparaître, fatalement. Donc, il faut vraiment réfléchir à l'idée que si on veut garder une langue, il faut qu'on lui laisse un usage réel. Je prends le contre-exemple de l'Alsace, et c'est le Pays Basque. Le Pays Basque, il y a 20 ans, où il y a 25 ans, donc au début des années 2000, il y avait encore, je ne sais pas moi, 1% de locuteurs côté français. Parce que les Basques, évidemment, il y a le côté espagnol qui nourrit la langue. Mmh. Hein, bon. Et donc, ils ont décidé, et c'est un choix politique, de faire revivre cette langue qui n'a pas d'autre soutien que l'usage du voisin. Et donc, aujourd'hui, ils sont à plus de 20% de locuteurs en 20 ans. C'est un phénomène absolument exceptionnel.
Mais cette volonté politique existe quand même en Alsace. Je pense à Kutschi, je pense à...
Non, enfin, non. Cette volonté politique a toujours, s'est toujours heurtée à la question alsacien-allemand. Et les deux langues ont été mises en concurrence.
C'est-à-dire que l'alsacien est une langue toute nue.
Voilà.
Comme le monument aux morts hein, de Strasbourg, où il y a les deux enfants, l'un est mort dans l'armée allemande, l'autre dans l'armée française. Alors, on ne veut pas montrer les uniformes, ils sont tout nus. Et en fait, la vraie lecture de ce monument, c'est l'un est mort contre, le français est mort contre les Allemands, et le soldat allemand est mort contre l'armée française, et ils sont tous les deux contre leur maman. Oui, tout contre. Donc ça c'est...
Voilà. C'est...
Oui, c'est ça.
C'est absolument ça, oui.
Ouais. Donc la langue nous met dans un...
La langue doit avoir un statut. Pour exister, il faut savoir à quoi elle doit servir.
Alors au lieu d'être dans une impasse, comme on a l'impression qu'elle est, elle devrait être sur un rond-point et continuer à tourner comme Raymond DeVos faisait.
Si on mettait autant d'argent dans la culture qu'on a mis dans les ronds-points en Alsace... on n'en serait pas là, mais ça, c'est un autre problème.
Ben, merci, Christian Hahn. C'était l'épisode numéro 66 de « Vous l'avez bien connu », une émission qui adore les ronds-points. Alors aujourd'hui, le titre de notre épisode, « Figé ou pas figé, Christian Hahn en quête de l'identité alsacienne ». Et alors, mon petit grain personnel, c'est qu'en 2024, être alsacien, c'est... avoir l'esprit critique, ça c'est mon père qui disait ça au lycée à tous ses élèves, ayez l'esprit critique, c'est avoir le goût de la dérision, c'est pratiquer le blasphème avec délectation, c'est d'être des anticonformistes viscéraux qui nous distinguent, nous les Alsaciens, des Français de l'intérieur et des Allemands. Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka Strasbourg tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi à la technique Thomas Marinelli et mon nom Yo Hopla Ambroise Perrin.